Voici la seconde partie de la conférence de Rina Nissim, enregistrée à Louvain-la-Neuve le 9 mars 2016. Il s'agit des questions-réponses. Rina Nissim est une naturopathe suisse renommée. C'est une figure emblématique du mouvement féministe pour la santé des femmes. Elle était invitée par le CEFA ASBL en collaboration avec Femmes et Santé. Et ces associations représentent le mouvement international Femmes et Santé en Belgique et proposent notamment différents ateliers destinés aux femmes. Tout de suite, Rina Nissim. Première question, quelles sont les méthodes naturelles aujourd'hui et sont-elles efficaces ?
Aujourd'hui, on a quelque chose d'un petit peu mieux, en effet. Donc, il s'agit d'observer le cycle, d'essayer de repérer l'ovulation par la température, par la glaire cervicale ou par d'autres petits symptômes. C'est un travail, donc ça peut prendre plusieurs mois pour qu'on arrive à voir si, chez nous, c'est flagrant ou pas. Donc, c'est quand même quelque chose de relativement laborieux, mais si, par chance, on a quelque chose d'observable qui tient bien la route et qui se reproduit bien régulièrement, ça peut être une méthode, mais je n'appellerais pas ça une contraception. Parce que la contraception, c'est quand même le préservatif que vous allez mettre le jour où vous avez l'ovulation et que vous avez quand même envie d'avoir un rapport avec pénétration, vous comprenez ? Cette observation, elle vous dit que vous avez ovulé, même que vous allez ovuler, ce qui est déjà plus intéressant. Donc avec la glaire cervicale, on peut voir venir l'ovulation, donc c'est assez intéressant. Puis on peut vérifier qu'elle est bien passée. Alors, ça nous libère des jours, mais ce n'est pas de la contraception. C'est l'identification de l'ovulation, n'est-ce pas ? Donc le pape est pour cette méthode, pour autant qu'on fasse de l'abstinence à l'ovulation. Comprenez ? Mais la contraception, c'est le diaphragme que vous employeriez ou le préservatif que vous employeriez. Parce que c'est quand même embêtant, parce que souvent les femmes, c'est à l'ovulation qu'elles ont des désirs, c'est fâcheux. Hein. Donc c'est une méthode qui n'est pas à conseiller pour les femmes jeunes. Il faut vraiment qu'un cycle soit déjà relativement régulier. Il faut quand même une femme qui... Vous voyez, il faut qu'un truc qui soit un peu régulier. Comme ça, il faut une femme quand même assez terrienne, assez sédentaire. Il ne faut pas qu'elle voyage un jour à Singapour, puis le lendemain à Mexico, dans une compagnie aérienne. Vous voyez, ça ne marcherait pas, par exemple. Donc, il faut un contexte quand même particulier. Et puis peut-être, il faut aussi éventuellement accepter une nouvelle grossesse si elle arrive. Donc moi, pour moi, si vous voulez, c'est ce qui vient en dernier, quand je fais ma longue explication, que je ne ferai pas ce soir, mais je commence en général quand même par les méthodes les plus efficaces, donc pilules, stérilets, etc., etc. Maintenant, la méthode de repère de l'ovulation, elle pourrait être très efficace, si vous voulez. Sur le plan scientifique, ça colle. Ça veut dire que si on la pratique bien, et que chez nous, les symptômes sont réguliers, ce serait vraiment d'une efficacité redoutable. Mais il faut quand même voir le rapport avantage-inconvénient, et c'est chaque personne qui doit faire sa pesée d'intérêt, n'est-ce pas, de quelle liberté ça lui donne ou ça ne lui donne pas. Et moi, j'ai quand même vu beaucoup de femmes préférer cette méthode dans le but d'une grossesse désirée.
Quels sont les avantages et les inconvénients de la pilule contraceptive ?
Il y a des inconvénients graves avec la pilule. Il n'en reste pas moins que les hétérosexuels sont fertiles de 15 ans à 50 ans et qu'il va bien falloir qu'elles fassent quelque chose si elles ne veulent pas avoir une grossesse tous les ans. Donc, moi, ce que j'explique, si vous voulez, c'est ce qui est à disposition. J'explique les avantages et les inconvénients. Je fais ça dans la sexualité des femmes, par exemple. Hein, c'est là que ça se retrouve. Et donc, en effet, la pilule, d'un point de vue naturopathique, dans ma pratique, j'ai toujours dit, essayez de ne pas commencer trop tôt. Essayez de gagner quelques années au début. Ne pas l'employer pour l'acné. Ne pas l'employer pour régulariser le cycle. Ne pas l'employer pour des règles douloureuses. Pour ça, essayez d'employer des méthodes naturelles. Hein, alimentation, onagre, etc., etc. Essayer de gagner un certain nombre d'années là le plus possible, de sorte qu'il y ait déjà un cycle qui se soit bien installé. On dit toujours 2 années de règles régulières, mais les ados, elles mentent, évidemment. Hein. Elles racontent, elles changent la date des premières règles, et puis bingo. Hein. Déjà ça. Hein. Ensuite, ne pas employer pendant trop d'années. D'un point de vue naturopathique, nous, ce qu'on dit dans les centres de santé de femmes, c'est maximum 10 ans. Il faudrait essayer de ne pas dépasser 10 ans. Ne pas dépasser 33 ans pour une fumeuse, non, 30 ans pour une fumeuse, 33 ans pour une non-fumeuse. Bon, je vous dis ça comme ça. Après, bien sûr, la femme, elle fait ce qu'elle veut. Elle peut aller ailleurs chez un gynéco, se la faire prescrire à tous les âges de la vie. Mais ça, c'est nos garde-fous, si vous voulez, qu'on essaye de mettre. Hein, que s'il y a une rupture, essayez d'arrêter la pilule, de sorte que si on rencontre un nouvel amant, on ne soit pas sous pilule, de sorte qu'on puisse lui dire « je ne suis pas sous pilule, il faut que tu mettes un préservatif », de sorte qu'il y ait des vraies pauses. Ne pas prendre la pilule tous les jours du mois, pour ne plus avoir de règles, parce que c'est très convenient, comme ça on peut bosser comme un mec, c'est parfait, on n'a plus aucun jour où on s'absente. Voilà, il faut mettre des garde-fous, si vous voulez. Mais la pilule, elle a les avantages et les inconvénients, comme tout. Et chaque femme doit faire sa pesée d'intérêt au plus proche d'elle-même, une fois qu'elle a bien compris les avantages et les inconvénients de chaque méthode. Et puis, il faut peut-être qu'elle prenne deux avis, si vous voulez, un avis allopathique, un avis naturopathique. Et puis après, qu'elle se retire au plus près d'elle-même pour essayer de voir, au point où elle en est de sa vie, qu'est-ce qu'elle peut faire, qu'est-ce qui lui paraît le plus plausible à ce moment donné de sa vie, étant entendu que si elle reste hétérosexuelle, la plage va être relativement longue et que vraisemblablement, elle devra visiter plusieurs contraceptifs, n'est-ce pas? Donc, elle devra encourager son partenaire à faire des périodes préservatifs pour surtout pas qu'il se débine et qu'il dise « mais t'as qu'à prendre la pilule ». Bon, il va falloir vraisemblablement visiter plusieurs contraceptifs au cours de sa vie. Donc, je ne peux pas avoir un discours moral par rapport à ça. Ce n'est pas possible. Ah, maintenant, j'ai aussi un discours au niveau de l'environnement, si vous voulez. Ah, évidemment, on a un problème avec les hormones, mais ce n'est pas que la pilule, vous savez. Ah, ce n'est pas que la pilule contraceptive, je veux dire. On a le problème avec les hormones de substitution pour la ménopause, hein, une autre tartine. On a le problème avec... les perturbateurs endocriniens, donc ce qu'on retrouve dans l'eau, c'est pas seulement la pilule, c'est les pesticides, c'est la fabrication des plastiques, la dégradation des plastiques. Il y a plein de molécules, si vous voulez, qu'on retrouve et qui jouent le même rôle au niveau hormonal. On appelait avant ça des xéno-œstrogènes, aujourd'hui on appelle ça des perturbateurs endocriniens. C'est un problème écologique, c'est un problème politique. Donc il faut s'organiser, aller voir nos députés et dire « bon, bah, écoutez, je suis très contente d'avoir de l'eau propre bactériennement à mon robinet, mais j'aimerais aussi avoir de l'eau chimiquement propre, mind you ». Et pour le moment, c'est complexe, si vous voulez. Il y a Berlin qui est en train d'expérimenter une nouvelle machine, il y a peut-être des machines pour nettoyer l'eau qu'on va pouvoir développer, ça va être extrêmement coûteux. Et il faut donc pousser nos collectivités à nous mettre ça dans le retraitement de l'eau et qu'on ne soit pas obligé de mettre chacune ça à son propre robinet pour avoir, nous, de l'eau propre. N'est-ce pas ? Donc la problématique de l'eau et la problématique des œstrogènes, j'en suis très consciente. Et je suis très consciente des effets négatifs de la pilule. On est sur le plan cardiovasculaire, tumoral, ça fatigue le foie. Name it, you had it. Mais malgré tout, je suis féministe et donc j'ai une approche non moraliste et j'estime que chaque femme doit être informée des avantages et des inconvénients de chaque méthode, puis qu'après elle doit faire un choix au niveau de sa propre conscience.
Prendre la pilule contraceptive, c'est comme si une femme était enceinte ?
C'est être au premier trimestre de la grossesse pendant 15 ans. C'est pas la même chose qu'être enceinte pendant 15 ans. Donc c'est un dosage, si vous voulez, qui fait une inhibition à l'hypophyse qui est ici, qui lui dit « il y a déjà assez d'hormones circulantes, t'as pas besoin de donner l'ordre de redémarrer un cycle ». Alors évidemment, c'est une dose significative, mais vous savez, les premières pilules qu'on a employées, comme moi j'ai employé quand j'étais jeune, c'était 20 fois plus que ce qu'on emploie aujourd'hui. Je peux vous dire, on en mettait une sacrée tartine hein, pour arriver, parce qu'on ne savait pas, en fait. Je veux dire, on ne savait pas. Non, on était toujours... tout de même pas, si vous voulez, après, on s'est amélioré. Donc, deuxième génération, on commence à faire franchement mieux. C'est la génération Steadyril, Microgyno. Il y a certaines d'entre vous qui ont sûrement connu ça. Maintenant, on est à la troisième et la quatrième génération et on ne fait pas mieux. On fait légèrement moins bien. On a changé la progestérone, on a trouvé qu'il y avait un truc qui permettait de diminuer l'acné, qui permettait de ne pas prendre trop de poids. Hein. C'est la progestérone qui est diurétique, donc on a trouvé une combine qui fait que ça paraît plus intéressant. Mais malheureusement, il y a plus d'accidents cardiovasculaires avec. Donc, no good. Donc, normalement, en première intention, on ne devrait pas commencer avec une troisième, quatrième génération. On devrait commencer avec une deuxième génération. Et puis, vraiment, si ça ne va pas, on pourrait éventuellement changer. Mais bon, ça, c'est du bricolage. Pour moi, le plus important, c'est de ne pas l'employer pendant trop d'années, faire les contrôles régulièrement, pas employer la pilule d'une copine pour lui rendre service, faire vraiment ses contrôles, donc pour faire les dépistages nécessaires, l'attention, faire une anamnèse correcte. Si elle commence à avoir des maux de tête, pouvoir discuter... qu'est-ce qui est en train de se passer, vous voyez ce que je veux dire. Et si on fait ça bien, bon, moi, dans ma pratique, je dois quand même vous dire, j'ai eu quelques accidents vasculaires cérébraux, hein, avec la Diane. C'était la Diane 50 à l'époque. Je peux vous dire, c'était moche, la Diane 50. C'était une belle... Donc, on a eu quelques accidents. Donc, l'une a perdu l'audition, etc., etc. Après, ils ont passé à la Diane 35. Donc, il y a du bricolage avec tout ça. C'est vrai qu'il y a des problèmes. Mais en même temps, voilà, c'est une femme sur 10 000, vous voyez ce que je veux dire. Ça, on ne peut pas empêcher les autres de l'employer pendant un certain nombre d'années. Le problème tumoral, il est presque pire, je dirais. On a beaucoup parlé du problème cardiovasculaire, parce que c'est vrai que c'est assez fort comme truc. Hein. Je veux dire qu'une femme à 16 ans se retrouve hémiplégique, aphasique, c'est quand même pas banal comme truc. Hein. Mais le problème tumoral, il est presque pire de mon point de vue. Parce qu'il y a une imprégnation hormonale avec une fatigue du foie qui, sur le long terme, fait beaucoup plus de maladies. En fait, il y a beaucoup plus de problèmes tumoraux que de problèmes cardiovasculaires, à la vérité. Donc, toutes les organes qui sont stimulés par les hormones pourraient être poussés à croître trop. La pilule ne provoque aucune tumeur, mais si on a une qui démarre, elle va l'accélérer, si vous voulez. N'est-ce pas ? Et ça, c'est beaucoup plus de problèmes. Il y a beaucoup de gynécos, quand des femmes elles ont une dysplasie, donc une précancéreuse du col de l'utérus, ils traitent la dysplasie au laser, puis ils n'arrêtent pas la pilule. D'un point de vue naturopathique, c'est la folie. Je veux dire, mais comment on peut faire une chose pareille ? Ça peut marcher, évidemment. Mais enfin, c'est quand même un peu... C'est un peu abrupt. Moi, sur les 40 ans où j'ai travaillé, j'ai vu les problèmes commencer de plus en plus tôt dans la vie des femmes. Les endométrioses, c'était des cas hyper rares qu'on avait à l'époque. Là, maintenant, c'est plusieurs par semaine, quoi. Les fibromes, ils commencent à 25 ans. Bon, vous vous rendez compte, on ne peut pas attendre la ménopause. Ça ne va pas faire. Je veux dire, avant, ça commençait les dernières années avant que la ménopause ne survienne. Donc, on a une aggravation de ces problèmes qui sont dus à trop d'années de prise de pilule et qui sont dus aussi à tous les autres facteurs environnementaux, évidemment. C'est pas que la pilule. Puis alors, la cerise sur le gâteau, c'est les hormones de substitution. Nous convaincre que... Un diabétique ne peut pas vivre sans insuline, une femme ne peut pas vivre sans œstrogène. C'est quand même une idée géniale. Hein. Puis le pire, c'est que ça a marché. Nous faire croire que c'est un sevrage, nous faire croire que c'est pas physiologique, et que donc il faut bouffer des œstrogènes pour le restant de nos jours. Que la peau restera plus belle, on aura moins de rides, les seins ne tomberont pas. Enfin, je vous passe les détails. Hein. C'est complètement dingo. Ils ont prescrit ça, mais à la louche, pendant des années. D'abord que des œstrogènes. Il y a eu 4 à 14 fois plus de cancers de l'endomètre. Ils se sont tués pendant 10 ans. Après, ils sont revenus à la charge. Ah oui, les nouveaux dosages des gynécologues. Œstrogène plus progestérone. Vous allez voir ce coup-ci, c'est bon. Il y aura moins de maladies cardiovasculaires, il y aura moins de cancers du sein. Tu parles. On attend 5 ans, 10 ans, on fait le compte, et pas du tout. Plus de maladies cardiovasculaires, plus de cancers du sein. Et là, il y a eu une étude qui est sortie dans le grand public, parce qu'elle avait été commandée par l'OMS. Ah, et après, il y a une autre étude qui s'appelle la One Million Woman Study. Il y a deux grosses études qui sont sorties, 2002 et 2004, si je ne me trompe pas. Et là, tout le public l'a su. Et plein de femmes ont arrêté de prendre des hormones de substitution. Et entre 2004 et 2007, le cancer du sein a diminué dans la population. C'était génial! Rien que d'arrêter, ça a fait diminuer. Vous vous rendez compte? C'est grandiose! Seulement, ça continue à monter chez les femmes jeunes. Et maintenant, on voit le cancer du sein chez les femmes de moins de 40 ans, ce qu'on ne voyait pas avant. Et maintenant, on voit le cancer du sein chez les hommes, ce qu'on ne voyait pas avant. C'est quand même dingue. Donc, on a bien un problème environnemental, je veux dire. Mais on peut avoir un problème environnemental et vouloir le mener d'une manière politique et après, quand même, ne pas avoir un discours moraliste sur l'accès à ces méthodes au moment où on pourrait éventuellement en avoir besoin. Mais pour la ménopause, ce serait d'abord essayer les méthodes simples, améliorer l'alimentation, augmenter l'apport en vitamine E et vitamine F, essayer les petites plantes, l'acupuncture si nécessaire, l'homéopathie, que sais-je, puis si vraiment, au bout de X mois, ça va vraiment, vraiment pas, éventuellement envisager les hormones. Mais il faudrait pas procéder dans l'ordre inverse. Et donc, ça ferait très peu de femmes traitées. Et donc, on s'en sortirait.
Quelle peut être l'implication des hommes ? Ces derniers pourraient-ils être des sorciers, eux aussi ?
En ce qui concerne nos compagnons, on en a quelques-uns ici ce soir, vous en avez peut-être chez vous aussi, je ne sais pas. Ce que j'attends d'eux, ce n'est pas d'être des sorciers. Ce que j'attends d'eux, c'est de faire des groupes avec leurs compagnons et leurs copains et essayer de rediscuter la construction de la masculinité et essayer de comprendre comment ils ont envie d'être des hommes aujourd'hui. Tout le monde est bousculé, si vous voulez. Les femmes ont bousculé la donne, ça a bousculé les hommes. Du coup, les hommes doivent se repositionner maintenant. Ils doivent redécouvrir, mais qu'est-ce qu'eux, ils voudraient faire de cette masculinité et qu'est-ce que ça devrait être. Et moi, c'est ça qui m'intéresserait plus. S'il fallait faire quelque chose, ce ne serait pas chercher des sorciers, ce serait plutôt chercher une réflexion, si vous voulez, qui permette un repositionnement. Et ça, il faut le faire séparément. Il faut le faire les hommes d'un côté, il faut les faire les femmes de l'autre. Puis après, éventuellement, on pourrait se recoser pour essayer de voir maintenant qu'est-ce qu'on fait avec cette nouvelle dynamique, n'est-ce pas ?
La chasse aux sorcières a-t-elle également touché les hommes ?
Il y a d'autres gens qui ont été condamnés sous des prétextes fallacieux, mais néanmoins, les procès des sorcières touchaient essentiellement des femmes et l'esclavage touchait essentiellement des Noirs, si vous me permettez la comparaison. Donc je ne pense pas qu'on comprend mieux les phénomènes en voulant dire « mais oui, ils ont aussi souffert ». Non, je ne pense pas que ça nous avance. Je pense qu'on doit comprendre l'histoire et qu'est-ce qui s'est véritablement passé et pour pouvoir construire notre futur. Et je crois véritablement que sur les bûchers, il y avait essentiellement des femmes. Il y avait des homosexuels également, figurez-vous. Et le terme « faggots », les fagots, « faggots », qui est un terme injurieux pour les homosexuels, et ben c'était les homosexuels qu'on employait pour faire démarrer le feu, pour mettre les sorcières dessus. I'm sorry to say. Donc voilà, il y avait en effet aussi des hommes, mais ce n'était pas n'importe quels hommes, c'était aussi des groupes opprimés. Donc voilà.
Comment créer ou intégrer un groupe de femmes ou de self-help ?
Ben, je crois qu'il faut passer par les associations qui existent autour de nous. Donc ici, par exemple, on a CEFA. Ici, par exemple, on a Femmes et Santé. Donc on a déjà des associations qui existent, des structures qui existent. On peut faire les solliciter, se proposer pour des ateliers. D'ailleurs, il y en a un qui était proposé aujourd'hui. Je crois qu'il faut passer par les associations. Il faut regarder autour de soi quelles associations existent, qui fait quoi, n'est-ce pas ? Et puis essayer de voir si là, il y a un espace. Donc là, j'ai cité deux noms d'associations, mais il y a d'autres milieux qui font ça également. Dans les milieux squats, les milieux anarchistes, il y a beaucoup de femmes qui s'intéressent à l'auto-examen et qui redémarrent. Dans les milieux spiritualistes également, il y a des groupes, des tentes rouges et des cercles de femmes et des trucs comme ça. C'est aussi un milieu dans lequel c'est tout à fait propice de trouver six femmes avec qui on pourrait faire un travail ensemble, non ? Donc voilà, il y a différents milieux où c'est possible, mais il faut identifier près de chez moi qu'est-ce qu'il y a comme structure qui existe déjà auprès de laquelle je pourrais trouver ces contacts. Il peut y avoir deux sortes de groupes, si vous voulez. Il peut y avoir des groupes, en fait, autour d'une professionnelle. Ça peut arriver. Par exemple, je ne sais pas, moi, une prof de yoga ou bien une physiothérapeute qui propose à sa clientèle de faire des groupes sur des problématiques X. Puis il peut y avoir une autre structure qui serait une structure, en fait, de femmes qui sont horizontales, si vous voulez, qui sont et qui commencent ensemble. Tranquillos, pas de problème. L'idée, c'est juste de mettre en commun nos problèmes, de commencer par se raconter nos premières règles. C'est un moment assez chouette à se raconter. Voilà comment on est rentré dans la sexualité adulte, les maladies qu'on a eues, celles qu'on a résolues, celles qu'on n'a pas résolues. Ça fait déjà une soirée, quoi. N'est-ce pas ? Puis après, recueillir quelles sont les choses qu'on est plusieurs à avoir, et puis après, décider de travailler sur ces choses, par des exercices pratiques ou pas. Et puis après, si c'est un groupe horizontal, peut-être inviter des personnes de référence lors d'une soirée pour aller plus à fond sur un sujet X, je ne sais pas moi, voilà, inviter une ostéopathe pour nous expliquer comment ça respire un crâne, comment ça respire un sacrum, vous voyez, des personnes ressources, quoi. Donc je crois que les deux choses sont tout autant possibles. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait cette confidentialité, cette répétition, on se rencontre à un délai fixe. Il y a un groupe à Paris qui s'est créé dans les années 70 et qui existe toujours aujourd'hui. Ils se sont accompagnés pour leur contraception, leur grossesse, leurs avortements, leur ménopause. Après, il y en a une qui a eu le cancer du sein. Elles sont encore accompagnées sur cette histoire-là. Et elles se voient toujours. Et elles s'accompagneront probablement jusqu'à la fin de leur jour.
Est-il possible d'envisager un suivi de la grossesse et de l'accouchement de façon collective ?
Tout à fait. Alors, au dispensaire des femmes, on avait des sages-femmes. Et puis, on faisait des suivis de grossesse, des accouchements à domicile. Et des groupes, on avait des groupes de préparation pour l'accouchement. Ça existe toujours d'ailleurs chez nous, mais ce n'est plus le dispensaire des femmes maintenant, c'est l'arcade des sages-femmes, mais peu importe. Donc l'idée, si vous voulez, ça s'est bien développé dans les années 80, on va dire, d'offrir une plus large gamme de possibilités. Et les soignants, au début, ils avaient très très peur. Ils disaient « mais vous êtes folle, faire des accouchements à domicile, mais quelle horreur ». En fait, il restait quelques vieilles sages-femmes qui allaient s'arrêter Et puis, si elle s'était arrêtée, ben, ça aurait été fini, si vous voulez. Puis il y a des jeunes qui les ont approchés, puis qui ont dit non, mais peut-être qu'on peut quand même continuer. Alors maintenant, il y a un choix, si vous voulez, c'est l'hôpital, la clinique, la maison de naissance ou le domicile. Voilà, c'est un peu ça, les possibilités. Puis chaque femme doit de nouveau évaluer qu'est-ce qui pour elle paraît le plus plausible, à quel type de risque elle se voit mieux vivre, n'est-ce pas ? Et quel type d'accompagnement elle peut organiser autour d'elle aussi ? Est-ce qu'elle aura de l'aide ou est-ce qu'elle sera toute seule ? Vous voyez, il y a toutes sortes de considérants là-dedans. Mais le plus intéressant, en effet, pour moi, c'était les groupes. C'est surtout pour des femmes qui en sont à leur première grossesse, évidemment. Mais ces groupes, c'est absolument génial, si vous voulez. De se préparer ensemble, c'est absolument génial. Et puis ce qu'on a fait, c'est qu'on les a envoyées en salle d'accouchement pour se présenter en groupe. Vous savez, vous devez faire une visite avant l'accouchement, parce que vous devez ouvrir un dossier à l'hôpital. Même si vous voulez accoucher à domicile, il faut que vous ayez un dossier à l'hôpital, parce que si vous arrivez en urgence, il ne faut pas qu'on commence à vous demander votre anamnèse familiale, si vous voyez ce que je veux dire. Bon. Donc, on leur a suggéré de prendre un rendez-vous en salle d'accouchement en groupe. Alors, elles arrivent, là, petite nana, en salle d'ac, alors, discussion, etc. Alors, moi, je n'aimerais pas de monitoring interne, moi, je voudrais un monitoring externe, parce que je voudrais pouvoir marcher autour du lit, et puis moi, je ne veux pas qu'il y ait 5 étudiants qui défilent pour vérifier ce que c'est qu'une dilatation complète, etc., etc. Donc, évidemment, les sages-femmes, elles doivent quand même discuter le truc et tout. Alors évidemment, ça présente un risque de faire ça. Ça veut dire que sur le dossier, ce sera marqué « Attention, emmerdeuse ». Mais bon, au moins l'avantage, c'est qu'au moment où vous entrez, admettons que vous accouchiez en effet à l'hôpital, si vous avez négocié quelque chose à l'avance, entre deux contractions, vous pouvez quand même rappeler « Je vous rappelle qu'on avait dit qu'on ne voulait pas... » Et cette pratique a fait évoluer l'institution. Si vous voulez. Ça fait évoluer l'institution, tant et si bien qu'on a même créé un système où l'hôpital a autorisé les sages-femmes dans le privé à venir accoucher leur parturiente à l'hôpital, ce qui est quand même génial. C'est une ouverture formidable, ça aurait été impensable avant. Donc voilà, il y a vraiment plusieurs possibilités qui se sont offertes. C'était la période de l'avancée, et maintenant on est dans la période du recul. Pourquoi ? Parce qu'il y a de l'austérité, donc il y a moins de personnel. Tout le monde travaille à des rythmes fous dans les hôpitaux. Je suis sûre que chez vous, c'est pareil. Donc l'idée de venir à 12 en salle d'accouchement, je crois que tu oublies. Du côté des médecins, ils sont repartis dans une campagne de dire « mais elles sont folles, mais c'est dangereux, mais comment, mais c'est pas possible, etc. etc. » Donc il y a de nouveau une tension qui est en train de monter sur cette question. On est de nouveau dans une période de médicalisation, où on essaye à tout prix de nous faire croire que c'est gravissime. Et donc, ça va vouloir dire qu'il va falloir se mobiliser à nouveau, réexpliquer, il y a des petits groupes qui repartent là-dessus, qui refont des films, des trucs en audio, je ne sais pas, pour discuter ce qui est, qu'est-ce qui existe dans ma région, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui ne l'est pas, quels sont les risques ici, quels sont les risques là, ce n'est pas les mêmes. Donc, il y a de nouveau un travail à faire. Chaque génération doit se refaire son petit boulot, hein, j'ai peur. On est de nouveau, en tout cas chez nous, la période de la médicalisation, là, c'est reparti très très fort. Ils tiennent de nouveau des discours terribles. Moi, je me rappelle toujours de ce professeur, c'était quand même fascinant. Il disait, mais vous êtes folle, faire des accouchements à domicile, vous allez avoir des décès. Puis nous, on disait, mais non, on ne va pas avoir de décès, puisque nous, on n'a que des grossesses normales. D'accord ? Que des grossesses normales et dans des conditions idéales, où justement, il y a à la maison des personnes qui sont d'accord de s'arrêter de travailler pendant plusieurs jours, etc., etc. Alors que vous, vous avez toutes les grossesses pathologiques du canton. Hein, parce que les grossesses normales, elles vont dans les cliniques. Donc, à l'hôpital, on envoie quoi ? On envoie les diabètes décompensés, les hypertensions, vous voyez ce que je veux dire ? Tous les cas les plus difficiles, c'est à l'hôpital qu'ils vont. Et immanquablement, dans l'année qui a suivi, ils ont eu 2 décès, éclampsie. Donc, évidemment, c'est quand une femme elle a de l'hypertension, de l'œdème, de l'albumine dans les urines, là, on commence à s'inquiéter un peu, on ne va peut-être pas planifier un accouchement à domicile, vous voyez. Donc forcément, c'est elle qui se retrouve à l'hôpital. Donc évidemment, après ces 2 décès, il s'est calmé. Puis il a dit, peut-être d'accord, oui, en effet, peut-être. Bon, en plus, on a de la chance, on a un petit canton qui est très urbain, donc on n'est jamais bien loin de l'hôpital. Vous voyez, c'est pas hyper courageux de faire un accouchement à domicile à Genève, parce que vous êtes à l'hôpital en 5 minutes, vous voyez ce que je veux dire. Alors, c'est vraiment pas un courage formidable. Si vous êtes en zone rurale, on pourrait parler différemment. Mais à Genève, vous mettez une perf, vous prenez une bagnole, vous allez à l'hôpital, je vais vous dire, c'est vraiment pas long. Hein. Donc voilà, je crois que votre génération, visiblement, va devoir revivre tout ça encore une fois. Moi, j'ai une petite référence que je recommande, c'est Susan Weed, C'est une états-unienne qui a écrit un livre sur les plantes au fil de la grossesse. Donc avant la grossesse, pendant la grossesse, les suites de couches et les petits bobos des bébés. Et là, il y a plein de trucs absolument géniaux à se réapproprier, hein, des trucs simples et qui marchent en plus. C'est ça qui est formidable. C'est que ça marche, la phyto. Le trèfle de vie, Susun Weed.
Prendre la pilule contraceptive jusqu'à la préménopause, un risque ?
À partir de 35 ans, les hormones vont commencer à descendre dans le sang. Donc on va avoir un petit peu moins de progestérone, puis les œstrogènes vont bien se maintenir. Et donc ça fait aussi une légère baisse de la fertilité. Le problème, c'est que si on reste sous pilule pendant ces années-là, on ne voit pas venir la préménopause. Vous comprenez le problème ? Et ça, c'est fâcheux. Donc, par exemple, j'ai eu une femme qui s'est remise en ménage à 42 ans. Alors, elle s'est sentie jeune et belle, elle marchait à un mètre du sol, vous voyez ce que je veux dire ? Et puis, elle s'est remise sous pilule, hein, parce qu'elle se sentait top, jeune, bonnard. Et à 46 ans, vous savez ce qui s'est passé ? Elle a commencé à avoir des bouffées de chaleur. Caramba ! Qu'est-ce qu'elle fait ? Si elle arrête la pilule, les symptômes vont augmenter énormément. C'est pas du tout dit que les ovaires vont re-avoir envie de travailler à 46 ans jusqu'à 48 pour le permettre de faire une ménopause physiologique. Alors qu'est-ce qui lui reste ? Passer aux hormones de substitution. Elle est prise au piège. Vous comprenez ? Donc, en effet, d'un point de vue naturopathique, on préférerait que les années de la préménopause se passent sans hormones, de sorte qu'elles puissent se passer plus ou moins harmonieusement, mais que, quand même physiologiquement, si vous voulez. C'est-à-dire que si on continue à surfer sur la vague du premier trimestre de la grossesse, là, après, ça va faire boum, pataplaf.
Le stérilet est-il une bonne alternative à la pilule ?
Ah, je vais devoir vous décevoir. Tout a des avantages et des inconvénients dans la vie. Alors, la pesée d'intérêt, c'est comme ça. C'est avantageux parce qu'il n'y a pas besoin de faire quelque chose de spécial au moment des rapports. Donc, ça, c'est l'avantage... comme la pilule, si vous voulez. Donc ça, c'est un avantage quand même très important. Les inconvénients ne sont pas hormonaux, à condition, bien sûr, de ne pas mettre un stérilet hormonal, mais ça, ce serait quand même bête. Parce que vous cumuleriez les deux désavantages, donc il n'y aurait que des indications sur les dernières années avant la ménopause, si vous voulez. Là, éventuellement, on pourrait considérer, mais certainement pas pour une femme jeune. Donc on est avec un stérilet non hormonal, on est d'accord. Alors, les inconvénients, c'est que ça crée une inflammation. Ça rend les règles plus abondantes et plus douloureuses. Donc, il ne faut pas déjà avoir des règles douloureuses et puis il ne faut pas déjà être anémique. Parce que sinon, on va aggraver ces choses-là. Et donc, on... Pardon ? Ah oui, mais attendez, vous me dites... Je suis désolée, si vous connaissez un cas qui est très heureuse, ben moi, je suis très heureuse de le savoir. Mais moi, je suis obligée de vous expliquer les avantages et les inconvénients pour toutes les dames. Excusez-moi de vous dire, mais voilà, les inconvénients, c'est ça. Une inflammation, une augmentation de l'abondance du saignement, une augmentation de la durée du saignement, d'accord ? Et puis un petit risque d'infection, quand même. Donc si vous voulez, vu qu'il y a une inflammation tout le temps, ça pourrait déraper en infection. C'est peu de cas, mais vous savez très bien ce que ça veut dire dans les statistiques, n'est-ce pas ? On est aux alentours de 2,5%, 3%. C'est pas grand-chose. Mais si c'est vous, c'est 100%. Et si c'est pas vous, c'est 0%. Bon, voilà. Donc c'est pas une méthode pour traverser le Sahara en jeep avec un jerrycan sur le toit. Voilà. Parce que c'est une méthode, si on a une vaginite, si on a une cystite, il faut traiter dans les 3 jours, antibiotiques, et pas déconner. Bon. Parce que sinon, l'infection, elle pourrait s'étendre. Vous comprenez ? Voilà. Et ces infections, bien, la moitié des femmes qui auront eu des infections qu'on appelle hautes ont un risque de stérilité derrière. C'est fâcheux. Voilà. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de gynécos qui n'aiment pas donner des stérilets à des femmes qui n'ont jamais eu d'enfants parce qu'ils se rongent les ongles. Maintenant, c'est pas vrai. On pourrait très bien essayer un stérilet chez une femme qui n'a jamais eu d'enfant, pour autant qu'elle n'ait pas toutes les choses que j'ai dit avant. Pas de règles abondantes, pas de règles trop douloureuses, pas une histoire d'infection à répétition. Parce que là, ce serait vraiment niaf. D'accord ? Voilà, c'est ça la pesée d'intérêt. Maintenant, sur le plan énergétique, ça fait quand même une petite inflammation. Quelqu'un qui est sensible, vous savez, les gens qui travaillent, qui sentent les choses, ils passent la main dessus, ils peuvent vous dire qu'il y a un stérilet là. Ah bah oui, il y a une inflammation chez tout le monde, c'est la méthode, madame. Le petit fil de cuivre qui est dessus est contraceptif. Il y avait déjà les Égyptiens qui faisaient ça. Ils mettaient un anneau de cuivre dans l'utérus des chamelles pour qu'elle n'ait pas de petits chameaux. Alors là, c'est la même chose, mais ça ne suffit pas. Ils se sont rendus compte avec le cuivre, ça ne suffirait pas. Donc il faut que le stérilet épouse un petit peu la forme de l'utérus, de sorte que ça crée une petite inflammation, de sorte que s'il y a un œuf fertilisé, qui se disent « Ah ben zut, ça va pas du tout ici. » Alors le désavantage, ça fait un petit peu plus de grossesse extra-utérine. Parce qu'évidemment, vu que l'utérus n'est pas très accueillant, il pourrait se dire « Ah ben non, je préfère encore la trompe, c'était mieux ici !»
Toujours au sujet de la pilule contraceptive, est-il nécessaire de respecter des pauses ?
Il n'y a pas d'idéal, malheureusement, je suis désolée de vous dire. Mais les pauses, elles servent à soulager le foie. Par exemple, cette idée d'arrêter pendant une semaine, ce n'est pas seulement pour imiter un cycle normal, c'est pour laisser le foie décharger un peu, et c'est ça l'utilité, si vous voulez. Donc on oublie un petit peu ça maintenant, on laisserait volontiers les femmes sous hormones tout le temps, et puis comme ça, ce serait tellement plus simple, elles iraient travailler tous les jours du mois, et puis elles ne demanderaient pas un jour d'arrêt. Maintenant, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est s'il y a une rupture et une séparation, ce serait bien d'arrêter la pilule, de sorte que si on rencontre un nouveau partenaire, on puisse recommencer à zéro et dire « je n'ai pas de pilule, tu dois mettre un préservatif ». De sorte qu'on n'ait pas besoin de discuter pendant 3 heures les tests qui ont été faits ou qui n'ont pas été faits par rapport aux maladies sexuellement transmissibles. Il faut profiter d'une rupture pour faire une pause. Mais pour qu'une pause soit intéressante, il faut qu'elle soit quand même un peu longue. Par exemple, une pause pour un voyage aux États-Unis pour 15 jours, ça ne vaut pas la peine, vous voyez. Ça ne vaut pas la peine parce que, mais même pour 2 mois, c'est trop court. Donc ça ne va pas aller, parce que si on fait une pause trop courte puis que les règles ne reviennent pas, on ne sait pas comment reprendre la pilule après. Donc voilà, c'est pour ça que je disais, la pause elle est intéressante si c'est un moment d'une rupture, parce que là vraiment c'est la bonne occasion pour faire une pause. Mais après c'est chacune qui doit discuter ça pour elle-même, suivant les situations dans lesquelles elle est. Mais la problématique qu'on vit actuellement avec la pilule, si vous voulez, qui est un peu compliquée, c'est qu'on commence très tôt, et en raison des formations... on retarde de plus en plus les projets de grossesse. Ça veut dire que les femmes, elles font des formations éventuellement longues. Après, il y a des stages, ça n'en finit plus, jusqu'à ce qu'elles rentrent vraiment dans la vie professionnelle. Ça arrive souvent qu'elles repoussent plus tard les projets de grossesse, ce qui pose des problèmes, parce que ça fait des trop longues plages sous pilule. Et après, ça fait des problèmes de fertilité aussi, parce que, ben voilà, 36, 37, 38, c'est pas la même chose que 20, 22, vous voyez, au niveau de la fertilité. Donc voilà, en naturopathie, on essaye d'avoir... Je vous ai dit tout à l'heure les garde-fous, mais évidemment, on ne les dit pas comme ça en consultation. C'est quelque chose qu'on a en tête, n'est-ce pas? D'essayer de gagner quelques années au début, essayer de ne pas prendre trop longtemps. Vous voyez, c'est des trucs qu'on a en tête, mais après, chaque situation est une situation. Et voilà, c'est quand même le choix de la femme, après, de voir comment on va procéder. Mais on a un problème sur les hormones, si vous voulez, en gynécologie, c'est beaucoup trop employé. C'est une véritable panacée, quoi. Si vous regardez les manuels de gynécologie, mais c'est consternant, quoi. C'est pour l'acné, c'est pour les règles irrégulières, c'est pour la contraception, évidemment. C'est pour les traitements de fertilité, c'est pour la ménopause, c'est pour ci, c'est pour ça, mais c'est incroyable. Je veux dire, c'est panacéa, panacéum, ce truc-là. Il faudrait être beaucoup plus strict et diminuer les indications, essayer vraiment de limiter beaucoup cet usage.
Le diaphragme peut-il être la panacée ?
Je crois qu'il faut mieux connaître toutes les possibilités qu'on a et pour pouvoir faire des choix éclairés, déjà. Pour celui-ci en particulier, il existe un diaphragme à taille unique qui a été inventé par un asticot allemand. Ça s'appelle Kaya, mais je ne vous le recommande pas. On peut même l'acheter sur Internet, je ne vous le recommande pas. En fait, ils ont fait toute une étude et puis ils se sont dit, ben voilà, il faut essayer de sauter cette consultation, puis de voir si on ne peut pas trouver un dispositif qui irait à une majorité de femmes. Et qui, à mon avis, n'est pas une bonne idée. Parce que ce n'est pas seulement qu'il irait à une majorité de femmes, mais il faut encore avoir l'occasion de l'essayer, de voir si on arrive à s'adapter. Donc nous, ce qu'on fait dans les centres de santé de femmes, et ce que vous trouvez ici quand même en Belgique auprès de certaines personnes, parfois c'est auprès de certaines sages-femmes, ça peut être auprès de généralistes, ça peut être auprès de certains gynécos quand même, déjà... de discuter des avantages et des inconvénients, de voir si ça correspondrait bien à cette période de votre vie, compte tenu de ce que vous vivez actuellement sur le plan sexuel, et puis de pouvoir en emporter un à la maison, faire des essais, dormir une nuit avec, voir si on le sent sur la vessie le lendemain, avoir un rapport avec, voir si on le retrouve au même endroit ou bien s'il a bougé. Vous voyez, il faudrait quand même voir si on arrive à s'y habituer, de sorte que si on se le fait prescrire, qu'on soit sûr qu'on puisse l'utiliser. Parce que si on l'achète sur Internet et qu'on n'arrive pas à l'employer, qu'on n'arrive pas à le mettre, à l'enlever, qu'on n'est pas capable de vérifier s'il plaque bien ou s'il plaque pas bien, ça va pas faire un bon résultat. Et donc, ça va plutôt... on va dire que cette méthode n'est pas efficace. Donc, pour nous, ça devrait vraiment être vraiment mesuré, essayé, avant d'être prescrit, pour qu'il y ait plus de chances que la femme se l'approprie et qu'elle l'emploie pour de vrai. Le problème qu'on a dans beaucoup de pays, c'est qu'en fait, pour des raisons de contrôle des populations, il y a des équipes qui passent et qui veulent juste mettre des implants, par exemple, parce que les implants, ça a commencé dans les pays du tiers-monde, pour ne pas revenir pendant 5 ans. C'est quand même vachement pratique. On passe une fois, on promet une radio en contrepartie. Donc il y a eu plein de programmes qui ont été faits en Inde, qui ont été faits en Amérique latine, qui étaient des programmes qui étaient faits d'une façon coercive, où on a presque obligé les femmes. Il y a des programmes où on a même fait des stérilisations forcées. Il y a eu plein de programmes, si vous voulez, où on a imposé des contraceptions aux femmes. Donc maintenant, il y a une méfiance. Dans beaucoup de ces pays, il y a une méfiance, et donc il y a une méfiance envers les plannings familiaux, par exemple. Parce que dans certains endroits, on veut pas aller dans ces... les dames ne veulent pas aller se faire soigner là-bas. Je parle de l'Inde, par exemple. Elles ne veulent pas aller se faire soigner là-bas pour leur anémie, par exemple, ou pour leur autre problème gynécologique, parce qu'elles ont peur de se faire prendre dans un programme comme ça. Et qu'en douce, on les contraigne à une méthode contraceptive, voire à une stérilisation, d'une manière forcée. Donc voilà, je crois qu'on ne peut pas prendre le diaphragme seul. On est obligé de prendre toute la relation à son corps, l'accès aux soins en général. Et je pense que ça peut être mené d'une manière collective. Ces problèmes-là, ils peuvent être améliorés d'une manière collective. Et moi, j'ai participé à des programmes comme ça, au Nicaragua, au Costa Rica, au Brésil... Je pense que c'est une des choses, en effet, que des petits groupes peuvent s'approprier relativement facilement. Mesure de diaphragme, ce n'est pas très difficile. Même une non-médicale peut apprendre à faire ça. Pourvu que ça l'intéresse, puis qu'elle ait l'occasion de pratiquer suffisamment, même une non-médicale peut apprendre à mesurer des diaphragmes correctement. Ce n'est pas sorcier. Donc c'est un champ de réappropriation possible pour un groupe qui s'intéresserait à faire ça. Mais il faudrait encore quand même qu'il y ait aussi un discours qui soit global. Ça veut dire qu'elle ne propose pas que ça, qu'elle soit quand même capable aussi de faire toute la pesée d'intérêts, des avantages et des inconvénients de toutes les méthodes existantes, de sorte que les femmes puissent faire un vrai choix.
Ces pratiques existent-elles également dans les plannings familiaux suisses ?
Les plannings familiaux, je pense que c'est la même chose chez vous, ils ont un biais. Ils ont un biais parce qu'ils reçoivent un public de femmes jeunes avec des grossesses non désirées. Et donc, ils ont peur qu'elles reviennent avec une autre grossesse non désirée. Donc, ils ont un biais. Ils sont plutôt pro-pilule plus préservatif pour les maladies sexuellement transmissibles. Donc, ce n'est pas toujours des endroits où on peut avoir accès à tout le panache de méthodes comme ça. Parce qu'ils ont un public particulier puis ils essayent de résoudre un problème. Mais par contre, si on a une bonne entente, comme c'est le cas chez nous, ils savent chez qui ils peuvent envoyer une femme qui serait intéressée par un diaphragme. Donc c'est déjà pas mal. Hein ? C'est déjà un bon début, on va dire. Hein ? Maintenant, quant à l'histoire de l'auto-examen d'employé à spéculum, alors, dans la période forte du MLF, quand on était vraiment battante et tout, on avait fait un truc génial que je vous recommande, c'est génial à faire. C'est un fichier des gynécologues. Alors, vous recueillez des témoignages, et puis vous faites un petit fichier, puis vous le publiez de temps en temps, puis vous le mettez dans 2-3 librairies alternatives. Alors, on peut aller régulièrement voir. Alors, voilà, on découvre que tel un tel, eh bien, il parle l'allemand et le français très bien, mais qu'il est quand même un peu paterneau, et puis qu'il est contre le stérilet pour les nullipares. Au moins, vous êtes au parfum, quoi. Alors, quand on faisait ce travail, au bout d'un moment, les jeunes qui s'installaient, ils nous contactaient, ils nous disaient, j'aimerais bien, voilà, je vais m'installer, et puis alors, je suis tout à fait disposée à montrer aux femmes leur col, donc j'aurai des miroirs à disposition, pas de problème, vous voyez. C'était eux qui essayaient de nous convaincre qu'ils allaient être formidables. Donc... C'est ça ce qu'un mouvement de pression peut obtenir, si vous voulez. C'est ça qui est intéressant. C'est vraiment de les mettre dans une situation où c'est eux qui doivent faire des efforts, n'est-ce pas ? Mais ça, on peut arriver à faire... on n'était pas un mouvement énorme, vous savez, on n'était pas si nombreuses que ça, hein, mais c'est possible.
Qu'en est-il du vaccin contre le HPV ?
Alors, le Human Papillomavirus, HPV... Alors, le professeur Zuhausen, qui a eu le prix Nobel pour faire le lien entre le HPV et le cancer du col de l'utérus, Ça s'est passé au même moment que la commercialisation du vaccin. Je me suis dit, ça c'est louche. Parce qu'en général, les prix Nobel, c'est quelque chose qui 10 ans après a permis de... Je me dis, mais là, cette coïncidence, c'est quand même louche. Alors, il y a un journaliste d'enquête et un gynécologue qui sont intéressés à ça, puis ils ont enquêté. Et puis, ils ont découvert dans la commission du prix Nobel, là-bas en Suède, il y avait 2 membres du comité qui travaillaient en fait pour les multinationales qui ont commercialisé le fameux vaccin. Got it? Donc, voilà. En fait, c'était une grosse affaire commerciale. Et en fait, les précancéroses du col de l'utérus... sont dus à des facteurs variés, évidemment. Il y a plein de facteurs variés, comme toujours, comme toutes nos maladies, toujours. Donc, une fois de plus, voilà, il y a des facteurs hormonaux, il y a des facteurs alimentaires, des facteurs environnementaux, etc., etc., n'est-ce pas ? Et il y a des facteurs viraux ou bactériens. En effet, c'est un facteur, mais c'est probablement un facteur parmi tout ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est, en fait, dans une vie normale d'une hétérosexuelle moyenne, elle va rencontrer un HPV à la fois, elle va faire son immunité dessus, puis ça va lui couler dessus comme sur les plumes d'un canard. Bon. Voilà comment ça va se passer généralement. Avec le vaccin, on lui en colle 4 d'un coup. On espère qu'elle va se faire une immunité. On ne sait absolument pas si l'efficacité de ce vaccin. Il va falloir attendre toujours 5 ans et 10 ans pour qu'on puisse faire nos petits calculs, pour qu'on puisse savoir qu'est-ce que ça donne exactement. Donc on ne sait pas encore qu'est-ce que ça va donner exactement. Et en fait, on s'en sortait très bien avant. Je veux dire... qu'est-ce que ça va nous amener de plus ? On était dans des pays, ici, où on avait déjà des taux de décès liés au cancer du col de l'utérus qui étaient déjà très bas. Donc la seule chose qui peut aider à faire diminuer encore davantage ces taux, c'est d'éduquer mieux les femmes, qu'elles aillent vraiment régulièrement faire leur contrôle, puis c'est quand même quelque chose de prévisible, hein, parce que, vous savez, on ne peut pas passer du tampon « nous n'avons pas vu de cellules suspectes de malignité » à « carcinome in situ » à moins de 2 à 3 ans. Donc, si on se fait contrôler régulièrement, normalement, on devrait toujours pouvoir dépister des stades précoces. On aurait 3 fois le temps de faire ou un traitement naturopathique ou un traitement allopathique. Dans tous les cas, on devrait retomber à la case zéro au Monopoly puis avoir de nouveau 2 à 3 ans devant nous. Donc, normalement, on devrait s'en sortir, n'est-ce pas ? C'est pas tellement craignos que ça. Alors, le drame dans cette histoire, c'est que depuis que le vaccin est apparu, ben, il y a une étrange coïncidence, la mortalité liée au cancer du col de l'utérus a augmenté en Suisse et en France. Je suis désolée de vous dire, très mauvaise nouvelle, très mauvaise nouvelle. Donc en fait, ça veut dire qu'il y a eu une coïncidence de situation. On a raconté que ce vaccin allait être une protection contre le cancer, il y a peut-être des nanas qui n'ont pas bien compris. Dans la même période, il y a eu une diminution... des gynécos disponibles pour faire des contrôles. En France, il y a une spécialité qui a disparu, qui s'appelait les gynécos médicaux. Avant, vous aviez une filière chirurgicale puis une filière médicale. Cette filière, elle a disparu. Mais toutes ces personnes, elles sont arrivées à la retraite, elles se sont arrêtées de travailler. Mais les gynécochirurgiens obstétriciens, ils n'ont pas pu reprendre ce volume parce qu'ils avaient déjà une clientèle, ils avaient déjà du boulot. Pendant ce temps, ils n'ont pas formé des généralistes pour reprendre ce travail. Ils n'ont pas formé des sages-femmes pour reprendre ce travail. Donc, il y a eu une coïncidence. L'apparition du vaccin, un discours confus, la disparition de la spécialité de gynéco-médicale, l'austérité avec une paupérisation. Les femmes ont moins de fric, elles ne vont plus chez le dentiste, elles ne vont plus chez l'opticien, elles ne font plus leur contrôle gynéco. Puis après, il y a encore un autre phénomène, il y a les migrations. Il y a des femmes qui arrivent chez nous qui n'étaient jamais rentrées dans ces programmes. Donc, ce n'est même pas qu'elles en sont sorties, c'est qu'elles n'y sont jamais rentrées. Voyez, et on se retrouve avec une augmentation de la mortalité liée au cancer du col utérus. C'est un scandale. Donc ce qu'il faut faire, ce n'est pas le vaccin, bien évidemment, c'est refaire de l'éducation fondamentale, que ces contrôles, c'est vachement important, qu'il faut les faire tous les ans si on est sous pilule et tous les 2 ou 3 ans si on n'est pas sous pilule. Et ça vaut vraiment le coup, ce n'est pas de la blague. C'est une occasion aussi de parler d'autres choses, c'est pas inintéressant. On peut peut-être trouver d'autres petites choses aussi à discuter. On pourrait gagner quelque chose sur le chemin. Moi, j'ai eu un cas qui m'a beaucoup touchée, parce qu'il y a quand même quelques effets secondaires avec le vaccin, il faut quand même le dire. Hein. C'est très, très peu de cas, hein, mais quand même, il y a des myofascites, il y a des scléroses en plaques, il y a quand même 2-3 choses. C'est très, très peu de cas, mais évidemment, comme je vous disais avant, pour celles à qui ça arrive, c'est 100%, puis pour celles à qui ça n'arrive pas, c'est 0%. Donc voilà, il y a une dispute à ce sujet. Mais moi, le cas que j'ai eu, c'est une jeune femme de 20 ans qui n'avait pas dit à ses parents, enfin il pensait qu'il était encore pucelle, quoi. Bon, voilà, il était apprenti, et puis ils se sont dit, ah ben c'est pas trop tard, là, puisque t'as pas encore commencé à avoir des rapports sexuels, c'est bien, tu vas pouvoir aller faire le vaccin. Puis cette nunuche, elle a rien dit, en fait elle avait déjà commencé, évidemment, et puis elle avait une mycose. Mais bien sûr, elle a rien dit, parce qu'elle a pas osé. Donc, ils lui ont collé le vaccin par-dessus, et puis tout d'un coup, elle s'est retrouvée avec une vulve toute gonflée, un clitoris rouge et tout gonflé. Elle marchait comme ça, comme un mec avec la prostate, vous voyez ce que je veux dire ? C'est quoi ce truc-là ? Alors elle va, elle consulte, on lui fout 3 couches de cortisone dessus, ça passe pas. Alors, tiens, bah mince, c'est quoi ce truc-là ? On lui fait une carotte, on lui fait une biopsie dedans, vous voyez si c'est bonnard, hein, pour la jeune femme qui commence sa vie sexuelle active. Elle a déjà une mycose, c'est déjà chouette, on lui fait encore une carotte dedans. C'est bonnard, hein. Et qu'est-ce qu'on trouve dans la carotte ? Du HPV. Donc l'andouille, elle avait des rapports non protégés, elle avait déjà rencontré un HPV, et on en a rajouté 4 par-dessus. C'est comme si on avait un mantou positif et puis qu'on vous collait un BCG par-dessus. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous avez le truc qui flambe. Bonnard, hein ? Alors après, on y est quand même arrivé, mais ça a pris du temps, hein, jusqu'à ce que ça dégonfle, je peux vous dire, ça a pris un certain temps. Donc, voilà, pour un pays comme le vôtre, la seule chose qui est utile de faire, c'est de faire de l'éducation à la santé pour pousser les femmes à faire leurs contrôles réguliers. Et puis quand elles se trouvent dans une situation, éventuellement demander un deuxième avis pour voir s'il n'y a pas des fois un traitement naturopathique, ça ne sert à rien de traiter un HPV. On ne traite qu'une dysplasie, même une dysplasie légère, on peut encore se tourner les pouces pendant 6 mois si on a envie, pourvu qu'on retourne dans 6 mois. À partir de dysplasie modérée, ce qu'on appelle CIN2, là on pourrait considérer éventuellement s'intéresser à un traitement naturopathique d'abord, puis se garder le traitement chirurgical en réserve au cas où on échouerait. Mais si on continue à faire les contrôles réguliers, dans tous les cas on va s'en sortir. Parce qu'on a toujours le temps de traiter avec un laser, on va encore y arriver. C'est jouable. Voilà.
Ici se terminent les questions-réponses à la conférence que donnait Rina Nissim à Louvain-la-Neuve le 9 mars 2016.